Amy Elliott June, 21 octobre 2011. Journal. La mère de Nick est morte. Je n'ai pas pu écrire. Parce que la mère de Nick est morte. Et son fils est complètement largué. La douce Maureen. La coriace Maureen. Elle était sur pied et s'agitait en tous sens quelques jours avant sa mort et refusait d'évoquer le moindre ralentissement. « Je veux juste vivre jusqu'à ce que je ne puisse plus », a-t-elle dit. Elle s'était mise à tricoter des calottes pour les autres malades qui suivaient une chimio. Pour sa part, elle avait décrété « plus jamais ça » après la première série. Elle ne voyait pas l'intérêt de prolonger sa vie si ça signifiait encore des tuyaux. Et je me la rappellerai toujours, entourée de pelotes de laine de couleur vive, rouge, jaune, vert, et ses doigts qui remuaient, les aiguilles qui s'entrechoquaient, tandis qu'elle parlait de sa voix de matou satisfait, une voix profonde comme un ronronnement ensommeillé. Puis, un matin de septembre, elle s'est réveillée, mais ne s'est pas vraiment réveillée. Pas en Maureen. D'un jour à l'autre, elle s'est transformée en petit oiseau. Et c'est allé très vite. Il ne restait que les rides et la carcasse. Ses yeux s'agitaient fébrilement sans pouvoir se poser. Elle était incapable de situer quoi que ce soit. Incapable de s'orienter. Alors est venu l'hospice. Un endroit à l'éclairage doux, joyeux, avec des tableaux représentant des femmes en coiffe et des collines verdoyantes, avec des distributeurs de confiseries et une machine à expresso. L'hospice n'avait pas pour vocation de la guérir ou de l'aider, mais simplement de s'assurer qu'elle mourrait à son aise. Et 3 jours plus tard, elle est morte. Sans plus de cérémonie, comme l'aurait souhaité Maureen. Même si je suis sûre qu'elle aurait levé les yeux au ciel en lisant ces mots, comme l'aurait souhaité Maureen. La veillée a été modeste, mais belle. Des centaines de personnes ont fait le déplacement. Sa sœur d'Omaha, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, s'affairait pour 2, à servir café et belle aise, à proposer des cookies et à raconter des histoires drôles sur mots. Nous l'avons enterrée par une chaude matinée. Il y avait du vent. Go et Nick s'appuyaient l'un sur l'autre, et moi, juste à côté, je me sentais importune. Cette nuit-là, au lit, Nick, dos à moi, m'a laissé passer mes bras autour de lui. Mais au bout de quelques minutes, il s'est relevé, a murmuré « J'ai besoin de prendre l'air ». Et il est parti de la maison. Sa mère l'a toujours materné. Elle insistait pour passer une fois par semaine faire notre repassage. Et elle disait « Je vais juste vous aider à faire un peu le ménage ». Quand elle avait fini, et quand j'ouvrais le frigo, je découvrais qu'elle avait pelé et tranché un pamplemousse et qu'elle avait mis les morceaux dans un Tupperware. Quand j'ouvrais le pain de mie, je découvrais que toute la croûte avait été ôtée et chaque tranche replacée dans le paquet à moitié nue. Je me suis mariée à un homme de 34 ans qui est toujours offusqué s'il y a de la croûte sur son pain. J'ai essayé de faire la même chose les semaines qui ont suivi la mort de sa mère. J'ai découpé la croûte du pain. J'ai repassé ses t-shirts. J'ai fait une tarte aux myrtilles avec la recette de sa mère. « Tu n'as pas besoin de me traiter comme un bébé, je te jure, Amy », a-t-il dit en contemplant le pain de mie dépouillé. Je laissais ma mère le faire parce que ça lui faisait plaisir. Mais je sais que le maternage, c'est pas ton truc. Donc, nous voilà revenus au carré noir. Le Nick doux, attentionné, aimant, a disparu. Le Nick bourru, irascible, colérique, est de retour. C'est normal de s'appuyer sur son épouse dans les passes difficiles. Mais Nick semble s'être éloigné encore plus. C'est un fils à sa maman, dont la maman est morte. Il ne veut rien avoir à faire avec moi. Il se sert de moi pour le sexe quand il en a besoin. Il me pousse contre une table ou le cadre de lit et il me baise, silencieux jusqu'aux derniers instants. Quelques grognements rapides, puis il me lâche. Il pose une main dans le creux de mes reins, son seul geste d'intimité, et il dit quelque chose pour essayer de rendre la chose ludique. T'es tellement sexy que des fois j'arrive pas à me contrôler. Mais il dit ces mots d'une voix morte. Quiz. Votre mari, avec lequel vous partagiez autrefois une vie sexuelle merveilleuse, est devenu distant et froid. Il ne veut faire l'amour que selon ses termes, quand ça lui chante. Petit A. Vous refusez tout rapport sexuel, il ne va pas gagner à ce jeu-là. Petit B. Vous pleurez, vous gémissez et vous exigez des explications qu'il n'est pas encore prêt à donner, ce qui a pour effet de l'éloigner encore davantage. Petit C. Vous gardez confiance. Ce n'est qu'un accident de parcours dans une longue vie commune. Il ne va pas bien en ce moment et vous essayez de vous montrer compréhensive et d'attendre que ça passe. Réponse C. Non ? Cela m'ennuie de voir que mon mariage se désintègre et de ne savoir que faire. On pourrait croire que mes parents, le doublet de psychologue, seraient les interlocuteurs tout indiqués à qui m'adresser. Mais j'ai trop de fierté. Ils ne seraient pas doués pour donner des conseils matrimoniaux. Ils sont faits l'un pour l'autre, vous vous rappelez ? Pour eux, il n'y a que des hauts, pas de bas. Une éruption infinie d'extase conjugale. Je ne peux pas leur avouer que je suis en train de foutre en l'air la seule chose qui me reste, mon mariage. Ils se débrouilleraient pour écrire un autre livre, un reproche fictionnalisé dans lequel l'épatante Amy profiterait des joies du petit mariage le plus fantastique, le plus épanouissant, le plus serein du monde, parce qu'elle s'y est appliquée. Mais je m'inquiète. En permanence. Je sais que je suis déjà trop vieille pour les goûts de mon mari. Parce que j'étais son idéal il y a 6 ans. Du coup, j'ai entendu ses commentaires impitoyables sur les femmes qui approchent de la quarantaine. Je sais à quel point il les trouve pathétiques. Ces femmes qui sortent dans les bars trop habillées, sans réaliser leur manque d'attrait. Quand il rentrait d'une soirée entre copains, si je lui demandais comment était le bar, il répondait souvent « complètement submergé de causes perdues ». C'est son code secret pour parler des femmes de mon âge. À l'époque, ayant à peine plus de 30 ans, je ricanais avec lui, comme si ça ne devait jamais m'arriver, à moi. Maintenant, je suis sa cause perdue. Et il est coincé avec moi. Et c'est peut-être ça qui le met tellement en colère. Je me soigne par la compagnie des tout-petits. Je vais chez Noël tous les jours et je me laisse tripoter. Les petites mains potelées dans mes cheveux, la laine collante sur mon cou. On comprend pourquoi les femmes menacent toujours de dévorer les enfants. Elle est belle à croquer, on n'en ferait qu'une bouchée. Même si regarder ses 3 enfants accourir vers elle, de leurs pas maladroits, frottant leurs yeux crottés par la sieste en allant retrouver leur maman, touchant son genou ou son bras comme s'ils venaient d'atteindre le port, comme s'ils étaient en sécurité, parfois ça me fait mal à voir. Hier, mon après-midi chez Noël m'a semblé particulièrement indispensable. C'est peut-être pour ça que j'ai fait une bêtise. En rentrant, Nick me trouve dans la chambre. Je viens de prendre une douche. Et très vite, il me pousse contre le mur, pousse son sexe en moi. Quand il a terminé, quand il me relâche, je vois la trace mouillée que ma bouche a laissée sur la peinture bleue. Il s'assoit sur le rebord du lit, haletant, et dit « Désolé, c'est que j'avais besoin de toi. » Sans me regarder. Je m'approche de lui et l'entoure de mes bras, comme si ce que nous venons de faire était normal, un rituel conjugal agréable, et je dis « J'ai réfléchi. » « Oui, à quoi ?»« Eh bien, peut-être que c'est le bon moment. Pour commencer une famille. Essayer d'avoir un bébé. » Je sais que c'est dingue, même en le disant. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je suis devenue la folle qui veut tomber enceinte pour sauver son mariage. C'est humiliant de devenir exactement ce qu'on méprisait le plus autrefois. Il s'écarte brusquement. Maintenant ? Maintenant, c'est à peu près le pire moment possible pour commencer une famille, Amy. Tu n'as pas de travail. Je sais. Mais je voudrais rester à la maison avec le bébé, de toute façon, au début. Ma mère vient de mourir, Amy. Et ce serait une nouvelle vie, un nouveau départ. Il m'attrape par les deux bras et me regarde droit dans les yeux pour la première fois en une semaine. Amy, je crois que tu t'imagines que maintenant que ma mère est morte, on va rentrer à New York comme des fleurs et faire des bébés, et que tu vas pouvoir reprendre ton ancienne vie. Mais on n'a pas assez d'argent. On a à peine assez d'argent pour vivre ici, tous les deux. Tu ne peux pas t'imaginer la pression que je ressens quotidiennement, parce que je dois nous sortir de ce merdier, subvenir à nos besoins, putain. Je ne peux pas payer pour toi, moi et des gamins. Tu voudras leur donner tout ce que tu as eu quand tu étais petite. Et je ne peux pas. Pas d'école privée pour les petites Dunes. Pas de tennis, pas de cours de violon, pas de résidence secondaire. Tu détesterais notre pauvreté, tu détesterais cette vie. Je ne suis pas si superficielle que ça, Nick. Tu crois réellement que c'est le meilleur moment, nous deux, pour faire des mômes? C'est ce qui s'approche le plus d'une discussion sur notre couple. Et je vois qu'il regrette déjà d'avoir mis le sujet sur le tapis. On est sous pression, chérie. On a eu quelques accrochages. Et je sais que c'est en grande partie ma faute. Je suis tellement désemparée ici. Alors tu veux qu'on soit comme ces couples qui font un môme pour sauver leur mariage? C'est connu. Ça marche du tonnerre. Nous aurons un enfant parce que... Ses yeux deviennent sombres, canins, et il me prend de nouveau par les bras. Non, Amy, pas pour l'instant. Je ne peux pas supporter le moindre stress supplémentaire. Je ne peux pas me rajouter un sujet d'inquiétude. La pression me fait déjà craquer, je vais péter les plombs. Pour une fois, je sais qu'il dit la vérité.